Mode d'emploi, l'émission hebdomadaire d'AC Agir ensemble contre le chômage. Sur FPP, fréquence Paris Pluriel, 106.3 MHz, à 20h30, tous les vendredis.
Tous les chômeurs ne tirent pas sur des policiers ou sur des gendarmes. Il faut les traiter comme des trafiquants et comme des voyous. Quand on veut expliquer l'inexplicable, c'est qu'on s'apprête à excuser l'inexcusable.
Bonsoir, bonsoir à tous. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 de la bande FM. C'est maintenant l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires. Et c'est l'équipe d'AC qui est ce soir aux manettes. Gilles est aux manettes et je suis avec Odile. Bonsoir, Odile Merkling.
Bonsoir.
Qui vient nous parler de son ouvrage « Femmes de l'immigration dans le travail précaire ». Et puis c'est Ludovic, hein, bien sûr, au micro. Alors on a décidé de parler à nouveau des femmes de l'immigration et de leurs conditions de travail. Pourquoi ? Parce que en cette période où Marine Le Pen flirte avec les 20% d'intention de vote, il semble que nos concitoyens ignorent toujours les conditions de travail du travailleur immigré. Alors Odile, toi tu as suivi depuis de longues années tous les mouvements, à la fois les mouvements de grève depuis les années 2000 qui sont apparus au cours des années 2000, les mouvements de grève des sans-papiers, des mouvements de grève des travailleuses émigrées dans l'hôtellerie, dans le nettoyage. Et tu t'es un peu intéressé à la question. C'est pas nouveau dans ton sujet de recherche. Et en fait, si on a envie de dire, c'est vrai que pour nous, l'apparition de ces mouvements de grève est tout à fait nouveau. C'est-à-dire qu'on avait, on a tous l'image de la femme immigrée qui est à côté de son mari, qui s'occupe de la maison, qui fait du travail plus ou moins formel. On en parlera tout à l'heure, mais on n'avait jamais vu un mouvement coordonné, collectif. Et puis on se doutait à peine, je pense, que elles occupaient autant de place dans le marché du travail. Tu peux peut-être commencer par nous expliquer un peu les politiques migratoires en France ce qui a changé en fait dans les politiques migratoires et ce qui n'a pas changé depuis à peu près 1974, date de la fin officielle de l'immigration économique et du début du regroupement familial.
Effectivement, par rapport à ce que tu viens de dire, je crois que c'est très important de préciser que les femmes immigrées ont toujours travaillé. Hein, c'est pas, enfin, les pouvoirs publics nous donnent cette image de la femme immigrée soumise à son mari qui reste chez elle, etc. Bon, et c'est vrai que quand on regarde les documents officiels, on dit, et depuis 2006 tout particulièrement, tout le temps, on stigmatise un peu les femmes immigrées comme étant sous-employées ou inactives, etc. Et c'est vrai que les taux d'activité de ces femmes ont été pendant très longtemps faibles. Maintenant, ils ont, depuis 1990 à peu près, les taux d'activité ont beaucoup augmenté. Alors c'est vrai que c'est un peu variable selon les origines, les pays d'origine.
Hein. Alors c'est nouveau ça quand même.
C'est nouveau. Alors, mais en même temps, je voudrais dire qu'il y a quelque chose de faux dans ce schéma-là, c'est que en réalité, quand on rencontre ces femmes, on voit bien qu'elles ont toujours travaillé et travaillé toute la journée et qu'elles travaillent à la fois pour l'entretien de leur maison, pour élever les enfants, etc. Mais qu'elles travaillaient aussi, qu'elles faisaient tout un tas de travaux, de couture, de garde d'enfants, de ménage pour tous les gens de leur voisinage, etc. Donc on a cette image-là. Et moi, je crois qu'il faut lutter contre ça. Parce que c'est vraiment une image qui est fausse. Et alors aujourd'hui, bon, effectivement, il y a cette entrée sur le marché du travail massive.
Dans le salariat, dans le salariat, hein, même précarisé, dans une forme
salariat,
de salariat.
Mais en même temps, il ne faut pas ignorer que cette face un peu obscure du travail des femmes continue à exister et que en même temps que elles arrivent dans le travail salarié, elles arrivent dans des emplois qui sont à temps partiel très souvent, sous-déclarés très souvent, même pas à moitié déclarés, qui sont dans des zones d'emploi extrêmement peu réglementées. Elles sont sur des segments d'emploi tout à fait particuliers, hein, parce que c'est vrai que c'est un aspect qui concerne un peu l'emploi des femmes en général, hein. Les femmes, l'emploi des femmes, il est très concentré dans des secteurs d'activité assez limités, hein. Bon,
par exemple, les
commerces, les activités administratives de secrétariat, les professions de santé et d'action sociale, les enseignantes, etc.
Mais alors, tout de même, j'ai quand même envie de vous dire qu'il y a eu une émancipation de la femme par le travail ces dernières années, n'est-ce pas? Le taux d'activité des femmes a augmenté. Elles, par leurs études, elles parviennent.
Oui.
D'ailleurs, on constate, certaines personnes constatent que Quand le taux d'activité des femmes augmente, le chômage des hommes augmente lui aussi. Alors tout de même, le travail, la femme s'est-elle émancipée quand même, la femme au moins européenne?
Mais il y a de ça, oui, c'est la réalité. Mais par rapport à ce que vivent beaucoup de ces femmes, bien sûr qu'un enjeu tout à fait important, c'est la conquête de leur autonomie économique et financière. Ça, il n'y a aucun doute possible, parce que la plupart de ces femmes, elles ont très peu de droits propres. Donc, elles arrivent à avoir très peu de droits à retraite, etc. Mmh. Donc, mais il faut dire aussi que, dans le même temps, beaucoup d'hommes immigrés se sont retrouvés au chômage. Et la précarité professionnelle a énormément augmenté chez les hommes aussi, mais en grande partie parce que les professions de l'industrie ont massivement licencié. L'industrie a perdu 2 millions d'emplois depuis une trentaine d'années. Donc, c'est vrai que les femmes, par contre, alors, du fait de cette montée de l'activité des femmes, du fait qu'il y a de plus en plus de besoins liés au vieillissement de la population, à l'augmentation du nombre de personnes qui sont dépendantes, du fait qu'il y a un peu un abandon de l'État de certaines activités de service à la population, dans le domaine de la santé, de garde d'enfants, etc. Donc là, il y a tout un champ. Et donc, quand on voit cette transformation du marché du travail, on est passé effectivement d'emplois à dominante masculine pour les immigrés à des emplois féminins, parce que justement, il y a eu à la fois du côté des besoins en main-d'œuvre, il y a eu une évolution vers des emplois
de service,
disons,
plutôt,
on va dire entre guillemets féminins. Quoi que j'aime pas beaucoup parler d'emploi féminin, mais enfin, c'est des emplois effectivement de service qui se situent très souvent dans le prolongement de la sphère domestique, familiale. Donc voilà, il y a eu cette évolution-là, et puis d'un autre côté, effectivement, l'arrivée de femmes, parce que les migrations ont été féminisées, parce que les politiques migratoires depuis 1974, l'immigration de travail avait été interdite. Donc l'immigration a évolué, c'était beaucoup plus une immigration familiale où la majorité, on avait je crois au moins 60% de femmes dans cette immigration familiale, plus une immigration d'étudiants, de demandeurs d'asile, de réfugiés politiques, où là aussi la part des femmes a continuellement a augmenté.
Alors, en t'écoutant, on serait presque proche du cliché, les femmes sont plus adaptables que les hommes, et donc elles sont plus capables de remplir des emplois de service que les hommes, qui ne sont bons qu'à l'industrie. Alors, tout de même, il y a quand même un changement important vers les années 2000, qui est probablement amorcé un peu avant, mais où il y a une reprise de l'immigration du travail, et sur des instructions de la communauté européenne. C'est-à-dire qu'on identifie réellement un besoin d'immigration à ce moment-là du travail.
Oui, alors là, moi je voudrais dire quand même que je suis pas bien convaincue qu'il existe une véritable politique d'immigration, ni au niveau européen, ni au niveau français.
À s'en tenir au texte, en tout cas.
Je crois que si on regarde la succession des textes de loi et des circulaires et tout, on n'a pas l'impression d'une très grande cohérence, c'est le moins qu'on puisse dire quelquefois. Mais c'est sûr que depuis les années 2000, il y a eu à nouveau une dégradation de la situation des migrants en ce qui concerne le droit au séjour, comme conséquence de l'évolution donc globale des législations. Hein, le code d'entrée et de séjour des étrangers et demandeurs d'asile a été modifié à plusieurs reprises, en novembre 2003, en juillet 2006, en novembre 2007. Et donc, on a durci à chaque fois les conditions du regroupement familial et d'attribution de titres de séjour. Avec bon, pour les femmes qui venaient pour rejoindre le conjoint, bon, on a eu de plus en plus des titres temporaires d'un an, éventuellement renouvelables. Et ces situations se prolongent pendant des durées de plus en plus longues, 5 ans, 6 ans et parfois plus. Et puis, comme de plus en plus de femmes viennent seules aussi, bien une attitude très dure des pouvoirs publics qui ne délivrent pas de titre de séjour à ces femmes qui vivent seules. Parce que, bon, très souvent, quand elles travaillent au noir et elles gagnent trop peu pour pouvoir être régularisées. Parce que pour pouvoir être régularisées, il faut au moins gagner il faut au moins gagner le SMIC mensuel et avoir un temps complet. Bon, c'est pas leur cas. Enfin, très souvent, c'est très difficile, quoi.
D'accord. Alors, on a bien compris, hein, que les situations sont multiples, puisqu'il y a des femmes en situation régulière, des femmes en situation irrégulière. Mais la nouveauté est quand même que, leur condition de séjour est liée à leur contrat de travail, en principe, hein, ce qui les met dans une certaine forme de précarité.
Non. J'ai pas dit ça. Attention. J'ai pas dit ça. C'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Quoique, on peut comprendre, en regardant ce qui s'est passé dans les mouvements de sans-papiers depuis 2008, on peut effectivement comprendre que le fait de travailler et d'avoir un contrat de travail et d'avoir des bulletins de paye peut favoriser l'obtention d'un titre de séjour. On pourrait comprendre ça. Bon, c'est pas ce que j'ai. En tout cas, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Simplement, c'est que il y a eu l'émergence de mouvements de femmes qui veulent acquérir leur autonomie et qui veulent acquérir des droits propres, aussi bien sur le plan de la protection sociale, sur le plan économique, que sur le plan du droit au séjour. Donc elles ne veulent plus être complètement liées à la situation de leur conjoint et au bon vouloir du conjoint. Hein? C'est ça qui est sûr et certain. Donc dans cette mesure, il était normal, dans la mesure où certains hommes arrivent à obtenir une régularisation par le fait qu'ils sont salariés, donc il est normal aussi que des femmes qui travaillent puissent un jour être régularisées en tant que salariées, même si elles vivent seules, etc. Mais j'ai absolument pas dit qu'il fallait à tout prix qu'elles aient un contrat de travail pour demander leur régularisation, parce que c'est pas vrai. Les femmes, elles ont toujours obtenu leur régularisation en fait au titre plutôt de la vie familiale. Alors voilà, les choses sont en train de changer, mais il faut pas non plus arriver à opposer une forme de régularisation à une autre. Toutes les formes de régularisation existent et on aurait tort de dire qu'un contrat de travail est indispensable. C'est pas vrai.
D'accord. Donc, encore une fois, les textes nous font mentir. On va s'écouter une petite musique et on reprendra sur le marché du travail. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM et c'est l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires. C'est l'équipe d'AC ce soir et nous parlons avec Odile Merkling des femmes de l'immigration dans le travail précaire. Alors, on en est encore au flux migratoire. Donc, tu me disais hors antenne qu'il y avait une polémique sur les chiffres de l'immigration, ce qui n'est pas nouveau. Donc, tu as des chiffres, toi ?
Oui. Alors, effectivement, il y a actuellement une controverse au sujet des chiffres de l'immigration, puisque les pouvoirs publics disent qu'on a actuellement atteint à peu près un flux de 200 000 nouveaux entrants à titre permanent sur le territoire français chaque année. Bon, alors là, je veux tout de suite dire quelque chose là-dessus. C'est que effectivement, entre 1995 et 2005 à peu près, les flux migratoires ont remonté environ de 50 000 personnes à 140 000 personnes par an. Du fait en grande partie d'une migration familiale qui est assez différente de celle qu'il y avait auparavant. C'est plus le regroupement familial classique, mais c'est une migration de membres de famille de gens qui ont la nationalité française. Bon, alors ceci étant dit, là où il y a un problème, c'est que depuis 2005, bon, comme on en a parlé tout à l'heure, hein, il y a eu les nouvelles législations à plusieurs reprises depuis le début des années 2000, ça n'a pas arrêté, pour restreindre ces flux d'immigration familiale. Donc c'était bien l'immigration familiale qui était visée, qui était stigmatisée dans ces textes de loi, et on a effectivement depuis lors une restriction de l'immigration familiale. Simplement, depuis 2-3 ans, les pouvoirs publics ont modifié la façon de comptabiliser les flux d'immigrants. Parce que, en suivant certaines recommandations des institutions internationales, on prend désormais en compte tous les migrants qui ont des titres de séjour d'un an comme étant des migrants permanents. Alors qu'auparavant, ces personnes-là pouvaient être, quand c'était par exemple des étudiants ou des demandeurs d'asile, on les considérait plutôt comme des personnes qui étaient de passage sur le territoire français. On ne les comptabilisait pas avec l'immigration permanente. Voilà, c'est toute la différence. Maintenant, on les comptabilise.
Est-ce qu'on a des chiffres sur le nombre de personnes, par exemple, de ce type de personnes qui restent, qui restent en France ? C'est-à-dire, est-ce que cette nouvelle façon de compter est justifiée ou non ?
Là, on peut débattre là-dessus pendant longtemps. Ce qui est sûr, c'est que au moins quand on parle des étudiants, enfin, il y a une certaine cohérence avec l'attitude des institutions internationales qui, en gros, recommandent d'intégrer plutôt les gens les plus diplômés, les plus qualifiés. Donc, ces gens-là, on les trouve surtout parmi les étudiants. Et alors maintenant, bon, vous savez, avec tout le débat qu'il y a eu sur la récente circulaire, puisque Claude Guéant a tenté d'interdire quasiment l'accès au marché du travail pour les étudiants étrangers. Dans les récentes années, on privilégiait plutôt l'accès au marché du travail pour les personnes qui avaient au moins un diplôme de master. C'était possible aussi parfois pour les autres étudiants de passer du statut étudiant dans un autre statut. Alors maintenant, c'est clair qu'il y a aujourd'hui. Bon, donc pendant longtemps on a stigmatisé, on a l'immigration familiale et on l'a restreinte. Aujourd'hui, on revient à une restriction de tous les flux. Hein. Simplement, là, la dernière mouture qui a été pendue par le ministère, donc Claude Guéant, consiste à faire la distinction entre les bons étudiants qui arrivent à réussir leurs études, qui ont des masters, etc., et les autres.
Oui, il faut quand même dire que, enfin, cette politique menée par Claude Guéant est en opposition avec toutes les circulaires européennes précédemment pondues et que ça se passe pas comme ça dans les autres pays européens. C'est vraiment typiquement français.
Enfin, faut pas trop idéaliser non plus la politique européenne, parce que je crois que grosso modo, quand les pouvoirs publics, quand ils ont tenté de revenir à l'immigration économique, l'idée c'était quand même de revenir. Bon, ils avaient projeté de faire rentrer à peu près 50% d'immigrants économiques dans les flux migratoires. C'était dans l'idée de restaurer une immigration temporaire temporaire et qui représente le maximum d'avantages pour le pays d'accueil et le moins de coûts en termes de coûts de formation, etc. Parce que c'est des gens qui arrivent déjà formés. Cette idée-là. Et puis maintenant, dans le contexte de la crise depuis 2009, il est clair qu'il y a une volonté de restreindre tous les flux, y compris l'immigration de travail. Cependant, l'immigration de travail, même elle a toujours continué, même après 1974, lorsqu'elle était interdite, non officielle, elle a toujours continué quand même.
D'accord. Alors, poursuivons sur la politique européenne. Il y a quand même les circulaires qui ont été pondues au niveau européen. Pariaient quand même sur une baisse de la population active au niveau européen, je dis bien au niveau européen, et sur un besoin de financement de la protection sociale, ce qui a servi d'argument à reprendre l'économie l'immigration du travail.
Bon, enfin, là-dessus...
Alors voilà, évidemment, tout le monde. Ce calcul s'est pas révélé forcément exact, en tout cas pour la France. Et puis on a eu tendance aussi à favoriser les immigrations intra-européennes, notamment celles des pays de l'Est, ce qui revenait en fait à mettre en concurrence des migrants de l'Est qui arrivaient avec des immigrants qui étaient déjà sur place et qui venaient effectivement des pays traditionnels d'immigration comme le Maghreb ou l'Afrique. Alors bon, c'était finalement il semblerait qu'on revienne sur ce type de politique là aujourd'hui en 2000.
De toute façon, normalement pour ce qui concerne les pays de l'Est aujourd'hui, ils ont la libre circulation totale et donc ils ont le libre accès au marché du travail. Donc, a priori, il n'y a aucune raison pour qu'on revienne là-dessus. Pour les pays de l'Union européenne, c'est fait. Hein. Le problème, c'est uniquement pour les migrants qui viennent des pays hors Union européenne. Et là, effectivement, en fin 2007 et début 2008, les pouvoirs publics avaient sorti deux circulaires avec des listes très précises contenant des métiers autorisés pour les uns et pour les autres. Bon, la première liste est bien entendu caduque aujourd'hui. La deuxième liste, elle était de 29 métiers, avec des métiers quand même où il y avait quand même certains métiers d'ouvriers qualifiés, du bâtiment, certains métiers d'informatique, certains métiers très techniques, hein, de dessin industriel, géomètre, etc. À présent, il y a une restriction à 14 métiers et on peut dire que ce sont essentiellement des cadres ou des techniciens supérieurs de l'industrie qui sont concernés.
D'accord.
Donc voilà, il y a eu une volonté effectivement de dire on va répondre à des besoins très très précis hein, en termes de profession. Alors parmi toutes ces listes de métiers, il y avait pratiquement pas de métiers féminins.
D'accord. Alors, donc on va clore sur l'immigration pour quand même parler des modifications du marché du travail depuis, on va dire, les années 2000. Mais c'est-à-dire sur l'apparition de ce j'aime pas le terme sous-prolétariat parce que c'est vraiment très connoté, mais on va dire de ces sous-emplois, donc comme tu le disais tout à l'heure, essentiellement féminins, et qui vont remplir des secteurs aussi différents que le nettoyage, l'hôtellerie, l'aide à la personne, mais aussi la distribution, la grande distribution, alors c'est peut-être plus pour la deuxième génération, voire l'industrie des biens culturels. Les explications sont peut-être connues, mais est-ce que tu peux quand même nous faire un résumé, un court résumé de ce qui conduit à l'apparition de ces emplois et au fait qu'on ne trouve dans ces emplois que des immigrés, hein, voire des sans-papiers?
Effectivement, disons que la montée de la participation des femmes immigrées dans le marché du travail a coïncidé avec un contexte général de segmentation de l'emploi, de déréglementation.
Tu peux peut-être expliquer ce que signifie la segmentation
de montée de la flexibilité. Disons que le marché du travail n'est absolument pas homogène. Il est divisé en plusieurs segments, plusieurs parties, disons. Et les personnes peuvent très difficilement passer d'un segment vers un autre.
D'accord, donc sont cantonnées dans un type.
Voilà, parce que il y a ça vient de toutes les théories, c'est des théories qui viennent des États-Unis, hein, depuis les années 70. On en a énormément parlé à la fin des années 70. Donc ça vient simplement des modalités de gestion de la main-d'œuvre dans les entreprises. Hein. Donc certaines catégories de postes font l'objet d'une gestion interne aux entreprises, d'autres catégories font l'objet d'une gestion externe, c'est-à-dire qu'il y a un turnover très élevé ou recours à des formes d'emploi tout à fait particulières. Et comme depuis 25 ans, l'emploi précaire s'est énormément développé. En fait, les choses ne sont absolument pas figées. Il y a une évolution qui conduit à l'augmentation incessante du domaine de l'emploi précaire.
Oui, alors il y a quand même une logique derrière tout ça je vais utiliser un barbarisme, la division internationale du travail, mais qui fait que grosso modo les activités productives ont été délocalisées ou sont réalisées dans les pays du Sud et que on ne garde chez nous que des activités de service, mais dans un contexte où en définitive on écrase les salaires, c'est-à-dire que au nom de la politique monétaire
mais on conserve aussi certaines activités industrielles, mais vous voyez que pour ces activités là souvent on va embaucher des personnes qui sont très très mal payées. Le bâtiment, bon, évidemment, puisque c'est le bâtiment, c'est quelque chose qui par définition et pas délocalisable, puisqu'on construit des bâtiments. L'industrie, il y a quand même toute une gamme d'industries qui sont en grande partie délocalisées, mais il y a encore un secteur qui reste sur le territoire français, mais pour lequel, comme il y a justement la concurrence des économies du tiers-monde, il faut une main-d'œuvre très peu payée.
D'accord.
Par contre, pour les services, il y a énormément d'activités de commerce ou de services à la population qui sont pas délocalisables par définition. Donc là, effectivement, on constate en plus que y a un problème au niveau de économique. Ça représente une fraction de l'économie de plus en plus important, et c'est des secteurs qui sont pas forcément, il y a pas une productivité importante, ça représente des coûts, les prix des biens industriels ont énormément baissé, comparativement les prix des services restent assez élevés, donc et en même temps il faut bien penser que ce sont les ménages qui souvent vont avoir besoin de ces services, comme les gardes d'enfants, l'aide aux personnes âgées, etc., que bien souvent, les ménages n'ont pas les moyens de rémunérer une personne ni à temps complet, etc. Donc, obligatoirement, les formes de travail vont être très émiettées, c'est-à-dire les personnes ont au moins 5 ou 6 employeurs avec elles font des heures de travail un peu... elles sont obligées de se déplacer plusieurs fois dans la journée, les temps de déplacement sont pas rémunérés, très peu de protection sociale. Alors maintenant il y a eu toute une partie qui a été plus ou moins subventionnée par les pouvoirs publics avec les chèques emploi-service aussi.
Ce qui n'empêche pas le travail au noir.
Non, parce que en fait il y a les deux, c'est-à-dire que les personnes peuvent être en partie déclarée, mais souvent elles le sont qu'en partie, et donc tout ça n'a jamais réellement changé. Donc ça répond à l'évolution de tout ce... pourquoi il y a des femmes immigrées dans ce secteur-là, c'est que bien évidemment, en plus il faut quand même revenir sur le fait de la GCS, par exemple les institutions internationales, l'OMC, les institutions, il y a eu l'accord général sur le commerce des services signé en 1994, puis après il y a eu l'Union européenne qui a tenté, vous savez, la directive Bolkestein, puis la directive sur les services de décembre 2006. Donc toutes ces institutions ont recommandé de marchandiser de plus en plus les activités de service, de développer un secteur lucratif dans ces activités, de réaliser des gains de productivité, de baisser les coûts, etc. Donc en réalité, il n'y a pas eu la réflexion nécessaire, parce que il y aurait besoin d'une réflexion au sujet du devenir de toutes ces tâches liées à la reproduction de la sphère domestique, tout simplement, et il n'y a pas eu cette réflexion, et que là où la société aurait besoin d'un vaste secteur public non marchand d'activités de santé, d'éducation, de services à la personne, etc., on a choisi de démanteler
Alors justement, tu dis dans ton livre que finalement ce type d'emploi remplace les infrastructures qu'ainsi on n'a pas à construire, donc par exemple exemple, une crèche, un hôpital dans certains cas, ou une maison de retraite, et que cette main-d'œuvre est tout d'un coup bien commode.
Oui, bien sûr, puisque même, de toute façon, on le voit bien, en région parisienne, il y a moins d'un enfant sur cinq qui trouve une place dans une structure d'accueil collectif. Donc, les horaires des crèches, par exemple, sont limités entre 7h du matin et 18h30 le soir. Mais malgré tout, souvent, les horaires de travail des femmes ne coïncident pas avec ceux de l'ouverture des crèches. Donc, tout ça fait que, néanmoins, très souvent, il est nécessaire de recourir à des aides extérieures, à des femmes qui vont s'occuper des enfants. Et il n'y a guère que les ménages aisés qui peuvent se permettre de recourir à une assistante maternelle ou à une auxiliaire parentale qui va être agréée et reconnue et rémunérée correctement et déclarée. Les autres sont non déclarés.
D'accord. Alors bon, on a bien compris hein, que au moins dans le domaine de l'aide à la personne, en tout cas, ce n'est pas le gisement d'emploi qu'on nous avait promis, même si le secteur a connu un boom, j'allais dire, un boom, certes d'emplois éclatés et mal payés. Alors moi, il y a quand même un truc qui m'a étonné hein, dans ton bouquin. Concernant la stratégie de Lisbonne, j'ai lu que l'augmentation donc des services, donc entre autres hein, de l'aide à la personne, devait servir de levier de compétitivité aux économies locales et que l'idée était de rattraper les écarts avec les États-Unis, donc l'écart en termes de productivité. Hein, et donc ce qui veut dire, en clair, j'ai bien compris, c'est que l'État d'une certaine façon trouve à mettre met un peu le grappin sur le travail informel, le travail non déclaré et essaye en même temps effectivement d'assurer une protection sociale, de financer la protection sociale mais aussi de ramasser un peu des impôts et puis de formaliser tout ça tout ça dans une politique de lutte contre l'inflation, ce qui fait que de toute façon les salaires ne sont pas
appelés à augmenter. Oui, c'est la diminution des coûts des services très clairement, voilà, qui est le problème. Puis en même temps, développer en même temps un secteur lucratif qui soit rentable. Bon,
d'accord.
C'est un choix, hein, mais on aurait pu réfléchir tout à fait différemment.
D'accord. Alors écoute, on va passer, je te propose de passer, d'abord on va s'écouter une petite musique et puis on va ensuite essayer de voir secteur un peu par secteur ce qui se passe en dehors de l'aide à la personne qui a un cas très particulier. Bonsoir à tous, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 de la bande FM, et c'est l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, c'est l'équipe d'AC. Je suis avec Odile Merkling, qui vient nous parler de son livre « Femmes de l'immigration dans le travail précaire ». Donc pourquoi « Femmes de l'immigration » puisqu'en fait, il s'agit de la catégorie des salariés la plus précaire hein, de tous, hein, ça je pense qu'on peut le dire. Alors moi j'ai identifié deux types de secteurs dans lesquels sont employées les femmes de l'immigration et dans lesquels sont employées, j'ai plutôt envie de dire, les primo-arrivantes et qui sont le nettoyage, l'hôtellerie, les services à la personne, ça on en a parlé avant.
Ouais.
Et là donc, comme tu le disais, c'est des travails avec des horaires éclaté, c'est-à-dire très tôt le matin, très tard le soir, des rémunérations très très basses des difficultés à faire respecter ses droits, sachant que un certain nombre de ces femmes sont limitées à du travail à temps partiel.
Oui. Alors effectivement, d'abord il faut dire que ce sont souvent des segments d'emploi très très particuliers. Hein. Tu as cité les activités de nettoyage, de la sous-traitance. Bon, la sous-traitance, on la retrouve dans tout dans un très grand nombre de domaines. Hein. Ça s'étend, ça se généralise de plus en plus à beaucoup de domaines. Alors il y a aussi le gardiennage, le standard et l'accueil, hein, les hôtesses d'accueil dans les sociétés privées.
Alors une sous-traitance, c'est une société qui ramasse un marché qui est confié par une société tutélaire, j'ai envie de dire.
Donneur d'ordre.
Voilà, un donneur d'ordre, oui. Qui lui confie le marché avec une enveloppe globale,
oui.
Hein, c'est-à-dire sur laquelle il va payer ses salariés. Et donc, la sous-traitance a tendance à favoriser ce qu'on appelle le moins-disant social, c'est-à-dire des revenus, enfin des coûts qui sont beaucoup plus bas,
puisqu'on
met tout le monde en concurrence.
Bien entendu, là, il faut dire clairement qu'on a tout un modèle économique, un nouveau modèle qui s'est mis en place et qui fait d'ailleurs que les collectifs de travail se retrouvent extrêmement affaiblis. Et c'est pas un hasard si les conflits éclatent, parce que les conflits pendant très longtemps il y en avait pas beaucoup, et ce sont des personnes qui travaillent dans des conditions extrêmement pénibles et qui souvent ne peuvent pas du tout. Elles sont, par exemple, dans le nettoyage, elles sont dispersées entre des chantiers, elles sont très dispersées, donc elles ont beaucoup de mal à se rencontrer, à se syndiquer, etc.
Oui, il y a un problème ça prend du temps pour se faire respecter ses droits et pour.
Oui, voilà. Donc le problème, quand les conflits éclatent, souvent c'est à l'occasion d'un événement très très particulier qui fait que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alors il y a par exemple les obstacles très nombreux que rencontrent les salariés pour obtenir des élections professionnelles et pour obtenir des délégués du personnel ou un comité d'établissement, etc. Il y a aussi les passations de marché, hein, qui se passent dans des conditions, très souvent, il y a effectivement le donneur d'ordre va choisir le moins disant. Donc les sociétés qui veulent accaparer un marché vont proposer des conditions de plus en plus basses.
Alors, sachant
ce
que
qui
parfois
fait que il va falloir à chaque fois réduire le personnel et imposer des cadences plus élevées, etc.
Alors, sachant que ce qui est parfois là, très étonnant, c'est qu'on a une société qui va, alors c'est pas en racheter une autre, qui va récupérer le marché, mais en réalité qui va récupérer les salariés,
oui.
Effectivement, qui va leur proposer des conditions de travail peut-être dégradées, mais ça sera exactement le même type d'activité, les mêmes salariés, simplement la société aura changé de nom. Ce qui n'a aucune logique à part.
Oui. Et puis ces occasions, il y a énormément de problèmes. Il y a par exemple des femmes à qui on peut décider tout d'un coup de diminuer leurs heures par rapport à ce qu'il y avait dans leur contrat, ou bien à qui on va donner le double de surface à nettoyer alors qu'elles n'auront pas d'heures inscrites en plus sur leur feuille de paye. Il y a des atteintes à la dignité, il y a des sanctions, il y a des licenciements, il y a des mutations.
Donc c'est une pure précarité de l'emploi.
Donc c'est ce qui fait que souvent les femmes sont amenées à se révolter, et c'est ce qui s'est produit notamment dans la lutte de la société Arcade. On sait que, par exemple, dans le secteur du nettoyage, il y a eu toute une succession de conflits qui se sont répétés depuis 10 ans, hein. Aussi bien dans le groupe Accor, chez Euro Disney et dans beaucoup de grands hôtels parisiens aussi. Ces femmes-là, elles ont effectivement des conditions de travail bien plus dures que les femmes de chambre des hôtels. C'est-à-dire, on leur demande de faire une cadence qui, quelquefois, est deux fois plus élevée. Hein. Et il faut dire aussi que les salariés qui travaillent dans la sous-traitance, souvent il y a quand même une très grande différence au niveau des ils ne bénéficient d'aucun des avantages sociaux que peuvent avoir les salariés des donneurs d'ordre. Ils ne bénéficient pas de la couverture par la convention collective ou par les accords collectifs, donc ils gagnent souvent facilement 40%, si c'est pas 50% en moins, par rapport aux salariés du donneur d'ordre. Donc il y a des différences énormes, et c'est pour ça que au bout du compte, quand on continue à les pressuriser, au bout d'un moment, c'est ça, ça,
Alors, comme tu l'as dit, hein, ce type d'emploi est finalement générateur de conflits. Et il y en a un qui nous a quand même beaucoup marqué, c'est la grève des sans-papiers, parce qu'on s'est aperçu hein, qu'il y avait des sans-papiers qui travaillaient, et ma foi que leurs employeurs réclamaient même avoir besoin d'eux. Et on a eu là, pour le coup, un vrai exemple de lutte à peu près coordonnée, on va dire, de gens qui avaient quand même tout à perdre. Alors déjà, comment peut-on être sans-papiers et travailler dans ce type de groupe, par exemple?
C'est pas tellement compliqué à expliquer, hein. C'est que avec ce système de notamment de sous-traitance, parce que il y a aussi beaucoup de sans-papiers qui travaillent par le biais de sociétés intérimaires ou de sous-traitance. Mais en fait, c'est un peu la même chose, parce que quand ils sont dans la sous-traitance, souvent le sous-traitant lui-même va recourir à l'intérim, etc. Donc, il y a des réseaux qui se mettent en place. Il y a des employeurs, ils savent à un moment donné. Ils savent que ils ont besoin d'un type de main d'œuvre qui accepte tout et n'importe quoi, et ils savent que ils s'adressent à certaines personnes et ils vont avoir par les réseaux de
D'accord. Donc, grosso modo, tout le monde le sait, mais bon, on creuse pas trop, et puis on fait travailler les gens, quoi. C'est un peu le principe. C'est-à-dire que les donneurs d'ordre savent plus ou moins que ils ont une main d'œuvre qui est sans papier, mais finalement, c'est bien pratique. C'est un peu ça l'idée.
Oui, enfin, ils savent pas forcément exactement qui a des papiers ou qui n'en a pas. Mais grosso modo, on sait que c'est une main d'œuvre qui est comme ça et qui est prête à tout accepter.
Donc, ces gens-là, dans ce cas-là, se battent à la fois pour avoir des conditions de travail dignes et une possibilité de régularisation, parce que l'un ne va pas sans l'autre.
Alors les conflits, effectivement, qui se sont développés depuis 2008, ont concerné... D'abord, en 2008, il y a eu plus de 2000 sans-papiers grévistes, avec le soutien de la CGT, de syndicats comme Solidaires, la CNT, etc. Et puis après, en 2009 et 2010, il y a eu de nouveau un mouvement qui a concerné, cette fois, plus de 6000 sans-papiers. Et donc, ils sont arrivés à un protocole d'accord... C'était le protocole du 18 juin 2010, qui malheureusement n'a pas été appliqué correctement, n'a pas été respecté en fait par les pouvoirs publics, les préfectures, etc. Ce protocole d'accord normalement devait permettre à tous ces sans-papiers d'avoir des récépissés et qui devaient être ensuite transformés en carte de séjour. Pratiquement à présent, seulement, il y a eu 4000 dossiers déposés avant la fin 2010. Et pratiquement, aujourd'hui, on peut dire qu'il y en a 1600 à peu près qui ont été régularisés, dont quand même un certain nombre de femmes. Hein, on peut dire entre 12 et 15% de femmes. Dont beaucoup de femmes étaient soit dans le nettoyage, soit dans l'aide à domicile, plus aussi certaines asiatiques, hein, les femmes asiatiques dans la confection, la restauration.
Donc le mouvement était suivi par les femmes.
Alors voilà, c'est ça qui est nouveau, c'est qu'il y a eu des femmes qui parce que depuis longtemps dans les mouvements de sans-papiers, les femmes étaient présentes, mais elles s'exprimaient peu et on ne les écoutait pas beaucoup. Là, on peut dire que avec ce système où la CGT a attribué des cartes de grève et a nommé des délégués syndicaux pour chacune des, parce qu'il y avait quand même un très grand nombre d'entreprises qui étaient en grève, hein, je sais plus exactement le nombre, mais il y en avait beaucoup, et donc au total dans le nettoyage, certainement plus d'une centaine de délégués syndicaux, etc. Et il y avait des femmes. Et certaines femmes ont joué un rôle important dans la grève. Donc il faut le dire, je crois que c'est intéressant.
Voilà, donc la femme n'est plus à la remorque des mouvements, révolutionnaires, des mouvements sociaux, et elles en sont parfois les leaders. Alors on va passer à un autre type d'emploi en quelques minutes, hein, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Pourquoi un autre type d'emploi? C'est même pas un autre type d'emploi, on va parler de la deuxième génération. Parce que finalement... si les primo-arrivants sont cantonnés dans des métiers dont on a vu hein, le nettoyage, l'hôtellerie, la deuxième génération qui, en principe, a des diplômes, qui, en principe, est intégrée et qualifiée, elle est cantonnée dans des métiers qui sont aussi une forme de sous-emploi. Alors, en vrac, hein, la distribution alimentaire, la distribution des biens culturels, les centres d'appel, c'est-à-dire tous ces métiers qui sont qui sont tenus en général par des grands groupes, mais qui sont des grands pourvoyeurs d'emploi à temps partiel, précaire à temps partiel.
Oui.
Là, pour le coup, on a quand même un souci. L'intégration ne semble pas fonctionner.
Là aussi, de toute façon, on reste dans le domaine de l'emploi précaire complètement, hein, puisque d'ailleurs il y a quand même toute une hiérarchisation aussi là dans ce domaine-là, puisque on a par exemple des domaines où il y a quand même pas mal d'avantages sociaux pour les salariés, comme les hypermarchés, certains centres d'appel, il y a des concentrations avec des grands établissements, et puis il y a des par exemple chez les centres d'appel, il y en a qui sont internes à des grands groupes, et puis il y en a d'autres qui sont externalisés, qui ne fonctionnent que en faisant de la sous-traitance. Donc voilà, il y a toute une hiérarchisation dans la restauration rapide. On l'a vu, il y a combien, 80% des restaurants de McDo qui sont des franchisés. Hein. Il y a les supérettes de quartier avec le hard discount. Donc voilà.
Tout ça, ce qui rend difficile l'acquisition de droits sociaux. Alors par exemple, je sais pas, un CHCT, des délégués.
Toujours pareil, c'est que pour la syndicalisation des salariés, pour avoir des délégués syndicaux, c'est très difficile, et surtout souvent les délégués syndicaux, ils sont harcelés par les directions et beaucoup sont licenciés, etc. Et il y a pas mal depuis, enfin tous les conflits qu'on a connus, hein, que ce soit
McDo,
Quick, Euro Disney, Monoprix, Carrefour, etc. Enfin, on pourrait Maxi Livre, H&M, Tati, etc. À chaque fois, il y a eu de plus en plus de délégués syndicales qui étaient des femmes. Hein, et qui étaient des femmes issues de l'immigration. C'est en réalité pour une raison, c'est que ce sont des personnes issues de l'immigration qui restent, qui s'accrochent à ces emplois-là. Ouais. Hein, parce que très souvent, on a aussi des Français. Bon, les Français, souvent, c'est des jeunes ou c'est des étudiants qui, à la fin de leurs études, espèrent aller dans d'autres secteurs. Tandis que là, on a des personnes qui vraiment, beaucoup de jeunes femmes issues de l'immigration, quand elles ont été caissières dans un supermarché pendant toute la durée de leurs études, souvent, elles vont rester caissières. Ouais.
Voilà, donc il y a tout un problème d'accessibilité à l'emploi. Écoutez, j'espère qu'après cette émission, les auditeurs seront convaincus que le travail des immigrés n'a rien à envier aux conditions de travail des Français. Certainement pas. Voilà, et dans les élections qui s'annoncent, peut-être que ce rappel risque d'être important. Alors on va se quitter là-dessus, puisque tout de suite c'est SM qui va nous suivre. Si Gilles, qui est à la technique, je crois qu'on a, on va obtenir du rab, donc ça tombe bien.
On peut continuer un peu des conflits qui ont eu lieu récemment dans la grande distribution, il y a eu quand même des petites avancées. Il y a la moitié des femmes qui travaillent dans la distribution sont en temps partiel imposé, il y a eu beaucoup de conflits, bon, à la fois par rapport aux conditions de travail avec une très forte intensité du travail, des cadences très élevées pour les caissières par exemple, et puis des méthodes de management qui sont stressantes, donc il y a eu plusieurs conflits qui ont eu lieu, et les femmes ont demandé en partie à obtenir une augmentation des heures qui sont inscrites sur leur contrat de travail, et certaines l'ont obtenu.
D'accord. Et évidemment, on n'a pas parlé de toutes les maladies, ce qu'on appelle les troubles musculosquelettiques, des caissières dans la grande distribution, qui est un fléau. Écoutez, on va se quitter sur ces bonnes paroles, et tout de suite c'est SM avec Bruno Mécano. La semaine prochaine, ce sera la Fondation Copernic, et on se retrouve dans 15 jours.
أسواني السيمي تقدم لكم الشيخة ريميتي الحقانية ويكساسبا مختار الفندي والدماما.